6h-10h, c'est Positive Morning avec Lisa, Thomas et Matt.
9h03 dans le Positive Morning, merci d'être avec nous ce matin, ça fait plaisir de vous savoir de l'autre côté de la radio, dans votre voiture, en Arabie Saoudite, à Tahiti, mais surtout à Mulhouse, à Paris, à Nice, un peu partout en France.
Oui.
Et ce matin est une matinée hyper spéciale, Lisa.
Et oui, puisque nous avons avec nous toujours notre invité Benjamin Peterschmidt qui va d'ailleurs se présenter. Allez, on va te laisser te présenter directement, Benjamin.
Eh ben déjà, bonjour à tous les trois, j'espère que vous
rebonjour.
Êtes
Rebonjour, bah, ça va, oui. Merci.
Eh
bien,
bonjour.
Alors, je m'appelle Benjamin Peterschmidt, je suis pasteur à la Porte Ouverte de Mulhouse et cela fait maintenant 6 ans que je suis pasteur là-bas.
Yeah.
Voilà, j'ai une gentille et merveilleuse femme qui s'appelle Sylvia et un petit garçon qui s'appelle Adam.
Yeah.
Eh ben, merci pour cette présentation, Ben. Et puis, on va aussi rappeler, Thomas, pourquoi Benjamin est avec nous.
Eh oui, puisqu'on parle ce matin de suicide. Alors, un terme comme ça, forcément, qui peut rebuter, qui peut faire un peu peur, mais un terme tellement profond qui touche tellement de personnes. On a parlé un petit peu plus tôt ce matin de ces pensées suicidaires. Et puis surtout avec un message d'espoir, hein, Benjamin, puisque toi, tu es passé par là et tu es là pour dire qu'il y a de l'espoir et que, eh bien, il y a une vie après les pensées suicidaires. Il y a une vie même pendant ces pensées suicidaires.
C'est ça.
Et on est là finalement ce matin pour encourager les gens.
C'est ça. C'est difficile, mais je crois vraiment qu'il y a une solution.
Mmh. Yes.
Et puis on en parle ensemble ce matin. Effectivement, vous pouvez aussi poser vos questions à ce sujet. N'hésitez pas. 0 652 300 342 ou directement sur notre page Facebook.
Pour parler de ce sujet, qui pourrait donner des sueurs froides à l'un ou l'autre intervenant puisqu'on parle de pensées suicidaires ce matin. Et du coup, sujet pas simple, mais sujet important. Et bien sûr, ouais, Matt.
Sujet pas simple, mais Benjamin peut en parler parce que tu es passé par là, Benjamin, justement. Tu nous disais un peu plus tôt ce matin. Mais pour ceux qui nous écoutent, je pense peut-être nous rappeler un petit peu ce que tu as vécu, ton histoire. Comment ça s'est passé pour toi, en fait? Comment t'en es arrivé à avoir ce genre de pensée?
Ouais, bien sûr. Alors, déjà, peut-être avant de rentrer dans mon histoire, je tiens à exprimer toute mon affection pour tous ceux qui passent par ça. C'est le Positive Morning. Yeah. Et je pense que c'est positif parce qu'il y a un vrai espoir.
Clairement.
Mais quand on est dedans, c'est difficile de voir du positif. Et je ne veux pas l'oublier pour tous ceux qui sont dedans encore aujourd'hui. Pour ma part, moi, je dirais que j'ai grandi dans une famille qui était de prime abord équilibrée. Hein. Enfin, elle est équilibrée, je vous rassure. un papa, une maman, j'ai 5 frères et sœurs. Et pourtant, il y avait, je dirais, un mal-être au fond de moi très jeune. Je me sentais un peu rejeté, etc. Et dès l'âge de 7-8 ans, j'avais déjà des pensées de suicide qui m'ont même amené à être sur le toit de ma maison, à hésiter à sauter ou pas sauter, à regarder le vide.
À 7-8 ans,
à regarder le vide et à me dire, mais qu'est-ce que je fais? Et si je sautais, qu'est-ce qui... Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai grandi et je ne me suis pas arrêté pour traiter ça. Forcément, à 7-8 ans, on ne se rend pas compte de l'importance de ces choses-là. Ouais. Et j'ai vécu mon adolescence un peu sombre, moi je suis un solitaire, etc. Et arrive le jour où j'ai 18 ans, je suis en Angleterre, et là je fais une première tentative de suicide et j'essaye de me jeter par une fenêtre, de me défenestrer.
Wow.
Et c'est là où la dégringolade a commencé, je suis rentré en urgence en France, et arrivé en France, à ce moment-là, je suis tombé malade psychique, et les pensées de suicide sont devenues des pulsions suicidaires. Et donc j'ai fait plusieurs tentatives.
Il y a des vraies envies, des volontés fortes. La différence entre pensée et pulsion, en fait?
Alors ça, c'est une très bonne question. c'est une très bonne question. Des pensées de suicide, on peut les gérer. Des pulsions, c'est beaucoup plus compliqué.
Ouais. Ça nous domine, ça nous prend.
C'est une pulsion, comme une femme enceinte qui a envie d'un repas à un certain moment et qui ne peut pas faire autre chose.
Wow.
C'est vraiment ça. Donc là, on lutte vraiment avec nous-mêmes.
C'est l'étape d'après, peut-être. C'est d'abord la pensée, ensuite la pulsion,
c'est tout
et
à
ensuite
fait ça.
Le passage à l'acte.
Okay, c'est tout à fait ça.
Donc t'as commencé à avoir des pulsions alors à ce moment-là quand t'étais en Angleterre, tu nous
dans,
disais.
Alors ça a commencé là-bas, mais dans mon temps de maladie, je dirais, ça s'est aggravé de plus en plus. Et puis à un moment donné où c'était plus du tout gérable, j'ai dû être hospitalisé et à plusieurs reprises j'ai fait de réelles tentatives où pour moi, et pas que pour moi, pour tous ceux qui m'ont vu, c'est miraculeux, j'emploie le mot, le mot est très juste à ce moment-là, c'est vraiment miraculeux que je sois encore aujourd'hui parmi vous parce que je le crois, Dieu m'a réellement sauvé la vie de manière surnaturelle.
Et Benjamin, ce genre de pensée, qui est-ce que ça touche? Est-ce que ça apparaît du jour au lendemain, ces pensées-là?
C'est difficile de parler de façon générale parce que c'est tellement personnel. Ce que je peux dire, c'est que ça peut toucher tout le monde. Personne n'est à l'abri de ça parce qu'il suffit d'un contexte, il suffit d'une saison de vie. Y a certains, je dirais, qui ont peut-être une fragilité un peu plus grande. Faut savoir, par exemple, dans ma famille, il y a des gens qui ont eu, dans mon héritage, je dirais, qui ont eu ces fragilités-là. Et donc, on sait aujourd'hui qu'il y a ces fragilités familiales, mais tout le monde peut être touché par ça. Ça peut venir par différentes choses, hein. Des personnes qui peuvent avoir des pensées de suicide, mais au travers d'une dépression, au travers même d'un burn-out certains, au travers juste d'une saison difficile dans la vie où hop, il y a une pensée, je dirais une pensée flash qui vient, qui traverse comme ça, qui soudainement. Et je pense que c'est important de bien être attentif à ça parce qu'il ne faut pas le prendre à la légère.
Ouais, et moi ce qui me semble super important, c'est que comme ça peut arriver à tout le monde, ça veut dire qu'on est un peu tous concernés. Ça peut être nous-mêmes ou alors quelqu'un de notre famille, un neveu, un collègue, une nièce, enfin je sais pas, ça peut être, ça touche vraiment tout le monde, donc on peut pas vraiment dire bah, moi ça me concerne pas, ça m'intéresse pas, je ferme les yeux. Alors on peut se le dire, mais c'est quand même un petit peu peut-être dommage.
On serait surpris peut-être de voir qu'à un moment de nos vies on se pensait fort et puis un jour ça nous tombe dessus parce qu'on vit quelque chose, une épreuve. C'est ce que Benjamin nous raconte ce matin. On le rappelle, Benjamin Peter Schmitt, hein, qui est pasteur dans une église et qui croit en Dieu, et ce matin il nous partage son témoignage. Vous êtes de l'autre côté de la radio, ça vous touche, ça vous parle, pour vous-même, pour un ami, un membre de votre famille. Ce matin on vous encourage à poser vos questions au 0 652 300 342. Ne laissez pas passer cette occasion de pouvoir parler, ouvrir vos cœurs et j'ai envie de dire chercher en fait à trouver des vraies réponses à ce que vous êtes en train de traverser. En tout cas, on est avec vous ce matin pour vous accompagner en discutant jusqu'à 10h. Tu nous disais justement un petit peu plus tôt dans cette émission qu'il y avait une différence entre pensée suicidaire et pulsion suicidaire.
C'est ça. Pour moi, encore une fois, quand j'avais 7-8 ans, c'était des pensées de suicide. Et là, c'est très important de le souligner. J'étais dans un contexte qui semblait pas prêté en fait à avoir des pensées de suicide. Mais c'est bien de le rappeler, tout le monde pourrait en avoir. Et la plupart des gens, en tout cas des pensées, peuvent passer par des moments avec des pensées très sombres. Mais ensuite, peut venir chez certains le moment où ça devient des pulsions, c'est-à-dire où ça devient quelque chose qu'il faut combattre contre soi-même. C'est cette envie de, cette impression de c'est plus facile d'en finir que de rester sur Terre. Et c'est là où la pulsion peut venir, et c'est là où ça peut devenir un vrai combat à ne pas prendre à la légère.
Et chez toi, ça s'est manifesté comment, ces pulsions? Ça allait jusqu'où? À quel point ça te prenait en fait?
C'est difficile à décrire pour ceux qui l'ont jamais vécu, mais c'est l'impression de devoir lutter contre soi-même en fait, parce que mon moi à l'intérieur a juste une envie, c'est que ça s'arrête et que j'en finisse. Et quand on a plus peur de rien, quand il n'y a plus aucune barrière qui peut nous protéger, que ce soit la peur de la douleur, que ce soit la peur de qu'est-ce que va en penser ma famille, là c'est gravissime et il faut et urgemment il faut faire quelque chose.
Et j'imagine qu'il y a une genre de culpabilité qui peut naître aussi, de se dire peut-être que j'ai laissé des pensées trop s'installer pour en arriver là, à ce point.
Mais quand ces pulsions viennent, c'est qu'on a laissé les pensées s'installer. Je dirais pas que, en tout cas pour ma part, j'ai une culpabilité parce que c'est venu sur des années et c'est arrivé dans une période où psychiquement effectivement j'étais malade pendant 11 mois et c'est là où tout est ressorti. Mais à ce moment-là, je crois que ça m'a ouvert les yeux sur le fait que j'ai laissé sous le couvercle, j'ai laissé les choses en fait, et c'est ça qui a fait que ça a explosé comme ça.
Est-ce qu'il y a donc une notion de désamorcer? Est-ce qu'il y a une notion de bon timing quand les pensées arrivent, quand elles commencent à s'installer? Est-ce qu'il y a une nécessité de désamorcer la bombe entre guillemets avant que on passe à l'étape pulsion? Et si oui, comment bien pouvoir voir ça chez ses proches, pouvoir l'observer et agir?
Et je suis tout à fait d'accord déjà avec toi dans cette notion de désamorcer. La première chose, c'est même pas par rapport aux proches, c'est par rapport à soi-même. Avoir des pensées, moi j'ai l'habitude de dire, du coup j'accompagne pas mal de gens qui passent par là. Avoir des pensées, ça peut arriver. Maintenant, faut pas les prendre à la légère sans pour autant s'alarmer tout de suite. C'est-à-dire qu'on va, je vais le dire comme ça, on va pas faire un séjour en hôpital psy à la première pensée sombre qui vient. Ça montre juste qu'il y a dans son âme quelque chose qui est instable. Et ça veut dire qu'il faut s'arrêter et dire, attends, qu'est-ce qui va pas au fond de moi? Et peut-être effectivement en parler, il faut surtout pas le garder pour soi, il faut en parler, il faut l'exprimer, autrement dit il faut le sortir. Quand on en parle, quand on le verbalise, on le sort. Et c'est ce que je viens de dire, c'est ce que moi j'ai pas fait, je l'ai mis sous le couvercle, donc j'en ai pas parlé. Et c'est comme ça, c'est la première étape pour le désamorcer, c'est s'arrêter, faire un bilan personnel et c'est en parler.
Alors vous n'êtes pas seul, parce que ce matin vous nous écoutez et vous, ça vous touche, vous dites mais en fait c'est ça que je vis, c'est ça que je ressens au fond de moi. Et ce que Benjamin Peter Schmitt est en train de nous dire, c'est qu'il faut oser en fait, oser en parler. J'ai moi-même connu des amis qui sont passés par là et qui sont restés comme toi Benjamin dans leurs pensées en fait, et ça emprisonne, on se dit non mais je dois passer au-dessus. Il y a une forme de pression en fait, on se dit il faut que je dois y arriver en fait.
Et on a l'impression, et là Lisa tu as raison, on a l'impression qu'il y a une forme de culpabilité, de pour beaucoup de gens c'est mais moi tout va bien. tout va bien, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un travail.
Je suis censé aller bien en fait.
Voilà. Ouais. Pourquoi je devrais avoir ces pensées-là? Il ne faut pas que je le dise parce qu'il y a des gens qui vont moins bien que moi et c'est pas normal que j'ai ça.
Il y a une question de tabou, hein. Ces sujets-là sont tabous. Hein. Et justement, c'est pour ça qu'on veut en parler. À l'antenne de Phare FM, ce n'est pas un tabou. On a vraiment besoin d'en parler. On a besoin de libérer la parole. Et c'est ça qui fait du bien aussi, c'est de pouvoir savoir qu'il y a des personnes qui vivent la même chose que nous et qui s'en sont sorties, comme Benjamin.
Bah moi, en tout cas, ça me touche beaucoup, hein, tout ce qu'on entend ce matin. Et puis finalement, Benjamin, dans cette sortie, j'allais dire, de tout ça, eh bien, y a eu forcément cette foi en Dieu qui t'a aidé, mais pas uniquement. C'est-à-dire, tu as aussi été accompagné. On peut aussi parler de ça, hein, de l'accompagnement.
C'est ça. Pour moi, les deux, en fait, vont ensemble.
De pair,
je pense que c'est important de le dire à tous ceux qui nous écoutent. Faut pas avoir peur d'un accompagnement professionnel aussi. Il y a des psychologues. Le psychologue, c'est plus de la thérapie de l'âme. Et puis, il y a, dans des cas vraiment importants, il y a aussi des psychiatres qui sont des médecins. On peut même parler de traitement, de choses comme ça. En fait, ce que je veux dire, et parce que je rencontre beaucoup de gens qui ont peur de ça, qui pour eux, un psychiatre, c'est quelqu'un qui veut juste les droguer, je vais le dire comme ça. Et j'ai l'habitude de dire, c'est des personnes qui ont fait 10 années d'études. 10 années d'études, c'est qu'ils doivent vraiment aimer les personnes qui ne vont pas bien. Et s'ils voulaient juste droguer des gens, ils seraient devenus narcotrafiquants, c'est bien plus simple. Je pense vraiment que c'est des gens qui aiment les personnes. Et j'ai vu des personnes qui se donnent, ils donnent tout week-end, nuit, tout le temps. Et c'est important de ne pas avoir peur parce que c'est des gens qui sont formés à ça.
Et c'est important de resituer aussi la chose, en fait. Hein. Les deux vont de pair. Je pense que c'est, un ami disait un jour que c'est comme avoir une béquille, en fait. Hein. Le médicament ne soigne peut-être pas le fond des choses, mais il accompagne, il permet au moins de vivre, de tenir le coup, d'avancer malgré tout, parce que ça ne se fait pas en un jour. Pourtant non plus, Ben, ça ne s'est pas fait en un jour. Ça a pris beaucoup de temps jusqu'au moment où tu en es sorti. Et c'est ce que tu nous racontais un peu plus tôt, hein, que tu en es sorti grâce à l'aide de Dieu, mais aussi avec un accompagnement médical.
C'est ça, et au-delà même de la prise médicamenteuse qui est la même dans certaines maladies psychiques, alors c'est un autre sujet, schizophrénie, dépression, etc. Tout le monde ne doit pas prendre des médicaments, mais les professionnels aussi arrivent à accompagner, peut-être à trouver certains mécanismes, nous aider à prendre du recul. Et je pense que c'est extrêmement important aussi de se faire suivre et de ne pas avoir peur de ça.
Et moi, il y a une image que j'aime beaucoup par rapport à ça. Quand on a mal aux dents, on va chez le dentiste. Et ben, quand on a des choses qui dysfonctionnent à l'intérieur, et ben on peut être accompagné par un professionnel. On a beaucoup plus tendance à aller voir un docteur quand on a une souffrance physique, mais quand c'est une souffrance psychique, on a beaucoup plus de mal. Pourtant, il y a des professionnels qui sont là, qui ont fait des études, comme tu le disais.
C'est ça.
Et voilà, c'est un encouragement à se faire aider.
Et ça touche même les jeunes. Alors, on en parlait ce matin, c'est une situation qui touche les jeunes, non pas que les personnes qui ont 40-50 ans, qui se posent des questions existentielles, parce que Ben, tu étais jeune quand ça t'est arrivé, ça commence à 7-8 ans, et dans ce temps de crise, il y a aussi beaucoup de jeunes qui passent par la
Lisa. C'est qu'on voit en fait vraiment le taux de suicide quand même augmenter au niveau de la jeunesse, hein, et puis même j'ai l'impression de passage à l'acte, alors j'espère pas dire de bêtises. Et c'est vrai qu'effectivement, avec cette crise Covid, ça doit encore pas simplifier les choses, de se dire mais quel va être mon avenir. Et vous qui avez, enfin toi qui as justement l'occasion de beaucoup fréquenter les jeunes, qu'est-ce que tu dirais, Benjamin? Est-ce que tu as cette impression-là aussi?
Alors déjà, premièrement, je te rejoins. Moi, je me rends compte, même dans les entretiens que je fais, qu'il y a de plus en plus de détresse, de crises d'angoisse. Souvent, les crises d'angoisse et ensuite les pensées suicidaires, c'est assez lié. Il y a de plus en plus de détresse. Et je pense que ce manque de visibilité face à l'avenir, c'est quelque chose qui permettait de se rattacher à de l'espoir. Et aujourd'hui, pour beaucoup, il y a un manque de visibilité, ce qui a peut-être fait tomber ces barrières de protection. Et j'ai envie de leur dire, les amis, il y a un espoir plus grand encore. Et même si aujourd'hui, vous ne voyez pas de l'espoir, il ne faut pas vous arrêter sur ce que vous ressentez. Parce que les pensées suicidaires, même les pulsions, dépendent beaucoup de ce qu'on ressent, des émotions. Mais les émotions, on peut les gérer. On peut les gérer par un accompagnement, on peut les gérer par des paroles, on peut les gérer. Et c'est pourquoi il ne faut pas juste s'arrêter. Je sais que c'est tellement difficile, c'est tellement douloureux. Vous savez, c'est quand quelqu'un se coupe dans son bras, on ne va pas lui dire « oh, c'est rien ». Mais quand il y a une blessure, une fissure dans le cœur, on ne peut pas dire « c'est rien ». Et c'est très compliqué parce que les personnes autour ne le voient pas. On ne le voit pas. Et donc, il faut que la personne elle-même soit consciente de dire « arrête-toi ». Et fais attention.
Il y a un appel ce matin de Benjamin Peter Schmidt, qui est pasteur, qui nous raconte son histoire, comment il est sorti de ses pensées suicidaires qui le dévastaient, qui l'anéantissaient, mais il en est sorti. C'est un message d'espoir, un appel ce matin à vous qui nous écoutez, à parler, à oser parler, ouvrir vos cœurs à un ami, un proche, à vous faire accompagner par des professionnels. On partage eh bien, un message d'espoir avec Benjamin Peter Schmidt, qui est avec nous, qui est notre invité du jour, qui a lui-même vécu en fait, eh bien, des épreuves aussi au niveau des pensées suicidaires, des angoisses. Et tu nous en parlais depuis ce matin tôt, tu nous en parles, Ben. Et justement, on voulait te poser cette question par rapport à comment tu en es sorti, mais jusqu'où ça allait en fait. Parce que tu nous disais en off que finalement, les pensées suicidaires, c'est un peu le sommet de l'iceberg en fait.
C'est ça.
En dessous, il y a quelque chose d'autre, c'est beaucoup plus profond. Tu veux nous en dire
c'est
un
ça,
peu plus
c'est important pour tous les auditeurs qui nous écoutent que les pensées suicidaires, c'est la conséquence de quelque chose. Mm-hmm. Ça ne vient pas tout seul comme ça. C'est la conséquence d'un mal-être, d'une souffrance. Dans mon cas, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, je me sentais un peu rejeté, mis à l'écart. Alors, mm-hmm. ce n'était pas que de la faute de mes frères et sœurs. Hein.
Ouais.
Mais moi aussi, je suis un peu différent. Hein. Mais aussi, il y avait un mal-être au fond de moi. Je ne m'aimais pas, je ne mm-hmm. me trouvais pas beau, pas intelligent, pas intéressant. Mm-hmm. Toutes ces choses-là, ça peut déboucher sur ça. Pas systématiquement,
ouais, ouais.
mais ça peut déboucher sur ça. Et quand ces pensées sont devenues des pulsions, quand je suis tombé malade pendant ces 11 mois, alors mm-hmm. que j'avais 18 ans, eh bien, j'ai dû m'arrêter et traiter ça.
Mmh.
Et traiter mmh. ça. Mmh. Et il y a eu chez moi une réelle question identitaire.
Mmh.
Et quand j'en suis sorti, aujourd'hui, je suis complètement guéri. Hein,
ouais,
en
ouais.
fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en hôpital psychiatrique en isolement.
Mmh.
Et un matin, je me suis réveillé, c'était terminé.
Wow.
Pour ça que je parle à ce niveau-là, je parle de miracle. Je me suis laissé accompagner par des professionnels.
Mm-hmm.
Mais un matin, je me suis réveillé, c'était terminé. C'est-à-dire, j'avais plus de crise d'angoisse, j'avais plus de pensée de suicide, j'avais plus aucune envie de me suicider et plein d'autres choses. Alors, c'est un long témoignage.
Ouais,
là,
ouais.
c'est qu'un aspect du témoignage.
Mm-hmm.
Mais et surtout, et c'est le plus beau, c'est que je suis sorti de ça et j'étais bien dans mes baskets.
Mmh.
C'est-à-dire que pour moi, en fait, les pensées de suicide se sont arrêtées parce qu'à l'intérieur, ça a été soigné. J'ai l'habitude de dire, quand on a une blessure sur le bras, ça ne sert à rien de mettre des sparadraps.
Mmh.
D'abord, il faut désinfecter.
Mmh.
Et beaucoup de gens mettent beaucoup de sparadraps sur leur cœur, mais ça ne fait que couvrir, en fait. Ça ne fait que couver. Et quand on prend le temps de désinfecter, ça peut piquer, ça peut faire mal. On n'a pas envie de remuer ça. On a l'impression juste qu'on remue pour remuer. Je ne suis pas un fanat de revenir sur le passé par principe, mais je crois qu'il y a des moments où c'est important, et d'où l'importance d'être entouré et d'en parler.
Comment ça se passe du côté de l'entourage, des personnes de ton côté, comment ça s'est passé peut-être pour ta famille, est-ce qu'ils ont perçu certaines choses, à quel moment, est-ce que c'était trop tôt, trop tard?
Alors c'est une très bonne question. Ma famille n'a rien perçu jusqu'à ce que j'ai fait ma première tentative de suicide.
D'accord.
Accompagner des personnes comme ça, ça peut être c'est déstabilisant parce que on a l'impression qu'on a mal fait quelque chose, particulièrement les parents. J'accompagne des parents qui ont des enfants suicidaires aussi. On a l'impression qu'on a raté quelque chose, qu'on les a pas assez aimés, etc. Mais c'est tellement propre à chacun et ça dépend de il y a tellement de choses qui peuvent déclencher que c'est pas que la responsabilité de l'entourage. Il y a des moments où effectivement ils ont leur part, d'où l'importance de bien entourer, etc., de bien accompagner ses enfants et tout au long de sa vie. Maintenant, ce que je dirais, la première chose que je dirais pour l'entourage, aimer. Aimer tout simplement. Ça paraît risible, mais l'amour est une puissance. L'amour est une vraie clé. Aimer tout simplement, parce que si lui ne se sent pas aimé, ça ne va pas l'aider. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dirais, ayez cette capacité de recul. C'est-à-dire qu'une personne qui peut être dans ces pulsions-là, elle ne gère plus tout. Ou pas forcément. Encore une fois, c'est difficile d'être général, mais j'essaie de donner des petits trucs comme ça. Maintenant, je crois qu'une personne qui, l'entourage qui arrive à avoir un peu de recul peut être accompagné. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est ne vous laissez pas embourber dans la souffrance de l'autre. Ne la prenez pas directement sur votre cœur. Entendez-la, écoutez-la, mais accompagnez-la. Ne la laissez pas vous tirer.
Et c'est ça qui est difficile. Quand on est un proche, on est émotionnellement impliqué à tous les niveaux. Du coup, prendre ce recul, c'est très compliqué. Vous nous écoutez de l'autre côté de la radio et c'est ce que vous vous dites ce matin. On vous encourage à vous-même peut-être vous tourner vers des proches, vers des professionnels, parce qu'il faut laisser aussi à un moment donné ce travail se faire par des gens qui sont extérieurs, qui eux auront la distance et l'approche nécessaire.
C'est exactement ce que j'allais dire. C'est que pour moi, une famille ne peut pas le gérer tout seul. C'est-à-dire qu'il faut c'est peut-être la personne qui est dans cette souffrance ne peut pas dire ok, j'ai besoin d'un soutien professionnel, etc. Mais c'est à l'entourage alors de dire écoute, nous on va te placer, quitte à, et ça c'est très important, quitte à avoir l'impression d'aller à l'encontre de ce que la personne qui souffre veut. Moi j'ai vu des personnes être dans un désarroi total parce que leur proche était suicidaire, a fait une tentative de suicide et ont été obligés de l'interner. Et ça c'est un déchirement pas possible, mais je crois que c'est vital dans certains cas.
Effectivement. Moi je me posais quand même une question, c'est à quel stade justement, Benjamin, je sais pas si tu pourras répondre à ça, mais à quel stade finalement on peut considérer quand une personne va mal justement que c'est un moment d'alerte quoi.
C'est pas facile,
j'ai l'impression.
C'est une bonne question, mais c'est pas facile parce que c'est très intérieur. C'est très intérieur. Et pour moi, je pense que si aujourd'hui, en France ou partout, on nous écoute, on prenait l'habitude d'exprimer plus ce qu'on ressent, je pense qu'on arriverait mieux à identifier. Moi-même, qui pourtant, je suis très régulièrement des gens qui passent par là, je ne vois pas chez tout le monde. J'ai certains qui viennent me voir, je suis même surpris. Mais parce que c'est tellement intérieur, je pense que prenons l'habitude d'exprimer ce qu'on ressent et ça sera déjà un bon départ pour voir.
Et il y a des gens en fait qui passent par ça et qui ont peut-être la cinquantaine d'années. Tu nous disais un peu plus tôt que ça peut être l'accumulation de choses liées à l'identité, par exemple, ou à d'autres niveaux de nos vies, en fait, des choses du passé qui nous retiennent, qui nous empêchent d'avancer. Comment on pourrait maintenant, après des années de vie, hein, quelqu'un qui nous écoute ce matin, qui se dit waouh, mais moi c'est tellement lourd en fait, je saurais même pas par où le prendre. En fait, quel serait l'axe en fait qu'il faudrait peut-être entreprendre là prochainement?
C'est là où Matt, tu t'adresses à un pasteur et surtout à quelqu'un qui a vécu une expérience surnaturelle. Ouais. C'est que j'ai pu accompagner des personnes de 60 ans qui étaient terriblement mal au fond d'eux, mais qui, à un moment donné, ont, je dirais, lâché prise, ont dit « Dieu, si t'existes, si t'es capable, fais quelque chose ». Et je vous assure, j'ai vu, mais comme d'un claquement de doigts chez certains, un bouleversement, un bouleversement complet. Il n'y a pas plus tard que 2 jours, je voyais encore une jeune. La première fois qu'on m'a appelé, elle était en hôpital psy parce qu'elle venait de faire une tentative de suicide. Je l'ai eue au téléphone, on s'est rencontrés quand elle est sortie de l'hôpital. Je l'ai vue quelques fois et aujourd'hui, c'est plus la même personne. Et ça, c'est surnaturel. Oui, j'ai discuté avec elle. Oui, j'ai fait parce que je le comprends un petit peu. Mais c'est pas moi. C'est surnaturel. À un moment donné, elle a dit « Jésus, viens m'aider ». Et j'ai vu ça chez des plus âgés et chez des plus jeunes. Et je vous assure, à tous ceux qui m'écoutent, il y a un espoir surnaturel qui est là aussi.
Waouh. J'espère que vous recevez ces paroles de l'autre côté de la radio. Une simple prière peut tout changer. C'est ce qu'on vous encourage à faire. C'est ce que Benjamin nous appelle à faire ce matin. En tout cas, en off, on aimerait prier pour vous. N'hésitez pas à vous envoyer votre sujet de prière au 0652 300 342. Une simple prière peut bouleverser vos vies.
Phare FM. La radio autrement. Écoutez. Partagez. C'est Phare FM.
Dernière ligne droite dans ce Positif Morning. Alors, déjà, on vous souhaite de passer une très très belle matinée à notre écoute. Hein. Merci d'être avec nous. Et puis, on parle ce matin, hein, donc depuis assez tôt, hein, de pensée suicidaire avec Benjamin Peterschmidt, pasteur qui est avec nous, qui est notre invité, Matt.
Oui, il est notre invité. Il nous parle de son histoire, son témoignage, mais pas que. Il nous donne aussi de vrais conseils. Et Benjamin, justement, on en discutait il y a quelques instants. Ces personnes qui sont passées par ce suicide, en tout cas des proches qui ont peut-être passé à l'acte, hein, qui sont décédés suite à un suicide. Quelqu'un qui nous écoute ce matin, qu'est-ce que tu pourrais dire aux proches, à la famille concernée, à ceux qui sont au plus près de cette épreuve? Comment le gérer, comment le vivre en fait?
Ça me tenait à cœur de peut-être m'adresser à toutes ces personnes qui ont vécu ce départ qui est terrible. Un deuil, deuil c'est un déchirement, mais un deuil par un suicide c'est... presque un tourment. Et ce que j'ai pas grand chose à dire en fait. Un jour quelqu'un a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est un père qui son fils s'est suicidé et qui a dit mais c'est à plus grande est la souffrance, plus petits doivent être les mots. Et je crois que pour les personnes qui connaissent des familles qui ont vécu un suicide, vous savez que les mots ne sont pas suffisants. J'ai accompagné une famille où leur jeune de 17 ans que je suivais s'est suicidé. Le lendemain, j'étais avec eux, mais j'ai presque rien dit. J'ai juste envie de vous dire que vous êtes aimés. Ne portez pas ce poids sur vous, ne rajoutez pas ce fardeau sur vous. Vous pouvez là aussi être accompagné, être entouré. Et je crois qu'au travers de cela... même si c'est terrible, même si c'est un tourment, je crois que vous pouvez avoir la paix. Mmh. J'ai juste simplement envie de vous dire ça. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, mais vous pouvez avoir la paix. Ne portez pas ça en plus sur vous.
En tout cas, on a une belle pensée pour vous ce matin de la part de Benjamin Peter Schmidt, qui est pasteur, qui est lui-même passé par ces tourments, ces angoisses, qui en est sorti aussi de manière surnaturelle. Et en tout cas, vous qui nous écoutez, on pense fortement à vous. Famille, proches, on a une pensée toute particulière pour vous. Et vraiment, on veut vous dire que Dieu vous aime tout simplement. Et on veut pouvoir vous aimer. J'espère que Phare FM peut vous faire du bien, vous accompagner au quotidien, une présence qui peut juste, eh bien, juste être là. Et c'est ce qui compte au final, c'est d'être là.
Notre invité Benjamin Peter Schmidt, pasteur, on parlait de pensées suicidaires tout au long de cette matinée. Et puis, on avait envie de te demander, Ben, un petit mot de fin, voilà, comme ça. Un petit quelque chose, si tu voulais laisser un petit message à nos auditeurs, auditrices, pour les encourager.
Oui, tout à fait. Alors déjà, merci de l'invitation et merci d'oser aborder ce sujet qui est un sujet pas facile à aborder. Et en radio, comme ça, on peut se dire... C'est délicat, mais je crois que ça a du sens.
Yes, vraiment.
Parce qu'on est dans une période où de plus en plus de gens passent par ces tourments. J'ai envie vraiment de vous dire, vous qui nous écoutez, qui ou le vivez ou connaissez quelqu'un qui passe par ces tourments, il y a de l'espoir, j'en suis le témoignage vivant. Effectivement, je crois à quelque chose de surnaturel. Je crois à Dieu, je l'ai expérimenté. Mais je crois aussi qu'il y a des personnes qui peuvent vous comprendre. Donc ne vous enfermez pas dans cette souffrance, ne vous isolez pas, mais ouvrez-vous, exprimez. Un jour, j'ai ma psychiatre qui m'a donné un très bon conseil, une très bonne image quand j'étais malade. Elle m'a dit, tu sais, Benjamin, chaque personne est comme une cocotte minute. Tout le monde a sa limite. Et si sur la cocotte minute, on ne fait pas évacuer la vapeur, elle finit par exploser. Évacuer la vapeur, c'est en parler, c'est de trouver ces petites combines qui permettent d'exprimer ce qu'on ressent à l'intérieur avant d'aller dans des états où on ne peut plus les gérer.
Ben merci pour ces beaux encouragements, on est sûr que ça vous a fait du bien et on a pas mal de retours de personnes qui ont apprécié ce que tu as dit, qui se sont senties encouragées, comme Micheline qui a dit que tu es un vrai exemple pour elle, qui connaît des hauts et des bas, et elle te remercie. Voilà, on reçoit des messages comme ça. Il y a aussi Jonathan qui est vraiment content d'avoir pu t'écouter parler et d'avoir entendu ce que tu as à dire avec ce véritable message d'espoir. Donc merci beaucoup, Ben.
Merci Benjamin, Peter Schmidt, d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver ce rendez-vous en replay sur farfm.com et le partager autour de vous à un ami, peut-être de manière simple et naturelle autour de vous. C'est ce qui fera du bien à quelqu'un et surtout, c'est ce qui permettra peut-être à quelqu'un de sortir de ce tourment pour trouver la paix qu'il recherche. En tout cas, merci encore Benjamin Peter Schmidt d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, les amis. On vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous.
Phare FM, la radio autrement. Écoutez, partagez, c'est Phare FM.